Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr, le mag de l'habitat avec Cédric Simonin.
Bonjour Eric.
La tête pensante d'Igloo.
Voilà. Un peu moins aujourd'hui peut-être.
Un petit peu moins. Aujourd'hui vous allez vous faire tout petit. J'ai l'impression que vous allez vous faire tout petit.
Je suis challengé.
Comment passer d'un urbanisme technocratique à un urbanisme pensé pour l'homme? Il répondra à cette question et à beaucoup d'autres, j'en suis certain. Il digressera, c'est certain. Le philosophe, essayiste et souvent polémiste Michel Onfray est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Merci.
À Strasbourg, une ville que vous connaissez bien. Pour commencer, avant les questions de Cédric, quel est votre rapport à l'habitat? Quel a été votre rapport à l'habitat dans votre vie?
Là, il faut faire une vraie généalogie d'enfance. Là, pour le coup, on revient d'ailleurs toujours à ça. Mais mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. Je l'ai beaucoup dit. On habitait une maison héritée par mon père, mais qui était une petite maison de 17 mètres carrés, rez-de-chaussée, 17 mètres carrés étage. Et nous vivions dans cette cuisine qui servait à tout. Et nous dormions à quatre dans la même chambre, 17 mètres carrés aussi. Donc il n'y avait pas de chauffage, du moins dans la chambre. Dans la cuisine, il y avait un fourneau et un chauffage au bois. Et il y avait des toilettes dans une cave juste à côté. Il fallait donc sortir de la maison pour aller aux toilettes. Et il n'y avait pas de salle de bain. Donc nous avons vécu dans 17 mètres carrés à 4. Et mon père étant ouvrier agricole, ce n'est pas forcément facile de s'occuper du purin, de faire les moissons et puis de pouvoir se laver dans une bassine.
Alors je me permets de vous arrêter parce que ça fera partie des questions de Cédric. Justement, les origines, là où on vient, je pense que vous avez des petites questions.
On va y venir.
Même des grandes questions. Je vous laisse avec
C'est
Michel.
C'est à moi ?
Ouais.
Donc sans vouloir vous serrer les pompes, je trouve que vous êtes un des grands penseurs de notre époque. Sur les deux grands courants de la philosophie, idéaliste et matérialiste, vous êtes plutôt matérialiste, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est plutôt rare. On est très heureux de vous recevoir ici dans Igloo pour faire de la philosophie, répondre à des questions un peu plus philosophiques que ce que l'on fait habituellement. Alors j'ai déjà une première question sur l'habitat. Selon vous, quel rôle l'évolution de l'habitat joue-t-elle sur l'organisation de la société et plus particulièrement sur les structures familiales?
Je pense qu'on bâtit comme on est et qu'une civilisation fabrique des maisons qui lui ressemblent. L'architecte pense un objet, l'urbaniste pense l'agencement de ces objets. Et qui peut aujourd'hui être architecte, qui peut aujourd'hui être urbaniste? Il y a une époque où quand on avait un roi, un prince ou un prince d'église, on pouvait effectivement bâtir en disant « je veux ceci, je veux cela » sans contrainte d'argent. On pouvait dire, même on peut remonter aux pyramides. Vous dites « voilà, je suis pharaon, je veux mon mausolée, mon tombeau, vous me fabriquez ça et je mets tout le monde à disposition de ce projet ». Donc aujourd'hui, il faut penser en termes d'argent. La maison qui vous venez, la maison de vos rêves, elle coûte obligatoirement. Si vous dites, eh bien, moi je voudrais ceci, je voudrais cela, tel type de matériaux, dans tel endroit, eh bien, on vous dit, voilà, le budget c'est ça. Vous pouvez pas, je ne peux pas. Donc continuez à rêver. En revanche, ce qu'on vous propose, c'est ça. Et on vous fabrique des clapiers, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on disait, mais il y a des bidonvilles autour de Paris, c'est pas bien, on va raser les bidonvilles et puis on va installer des barres d'immeubles. Et là, on dit, ah, formidable, la barre d'immeubles. Qu'est-ce que c'est? Sympathique, propre, net, c'est éclairé. On a une douche, on peut par maison, on a le confort moderne, etc., etc. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, ah oui, mais enfin, c'est quand même très collectif, tout ça. Il faut partager sa vie avec son voisin. C'est-à-dire, quand le voisin se lève tôt et tire la chasse d'eau, on l'entend. S'il rentre tard et qu'il prend sa douche, on l'entend aussi. Et si éventuellement le couple à côté fait un peu des câlins et que ça crie un petit peu, on l'entend aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intimité, on entend les bruits d'autrui, quoi. Et on se dit, mais il y a une alternative à ça, qui est le petit pavillon, et qui était le petit pavillon bourgeois. Et là, pour le coup, on va chez Tati, enfin la caricature de mon oncle, c'était cette petite maison bourgeoise avec le petit poisson qui crache de l'eau quand on ouvre la porte, l'électrification, enfin la domotique, quoi, une critique de la domotique. Et on se dit, on a oublié tous les habitats qui, pour le coup, étaient matérialistes. Parce que là, on est dans l'habitat politique et on est dans l'habitat idéologique.
Oui.
L'habitat matérialiste, c'était, ça sert à quoi une maison? À se protéger des intempéries, du froid, du vent, de la pluie, des animaux sauvages, etc. À l'origine, c'est ça. Donc on trouve une grotte, voilà, c'est fait, c'est fabriqué. On fait un feu devant, puis l'affaire est réglée. Ou alors, on se dit, avec du bois, on taille tout ça, et puis on fait une petite, un petit volume dans lequel on se protège. Donc, a priori, c'est ça, l'habitat. C'est effectivement fait pour faire de telle sorte qu'entre la nature et la nature, c'est-à-dire entre la nature de l'homme et la nature générale, on puisse avoir un édifice culturel qui nous en protège, qui nous protège de ces difficultés-là. Aujourd'hui, ça reste quand même un peu ça, sauf que nous sommes des milliards sur la planète.
Oui.
Et que, pour le coup, comment fait-on pour faire du logement de masse? Il y a une époque, il y avait un foyer, une maison, quoi. Là, on est avec des milliards de gens qu'il faut tout de même loger et dans des endroits qui sont tous concentrés. C'est-à-dire, il y a d'immenses déserts. Moi, il m'est arrivé quand j'allais au Japon en avion de dire, de bouquiner, et puis de regarder par le hublot et de dire c'est la steppe, et puis une heure après c'est la steppe, et une heure après c'est encore la steppe, et quatre heures plus tard on se dit on n'a pas changé de paysage. On ne construit pas dans la steppe comme ça, sauf à vouloir, sur le principe de Brasilia, mettre une ville, on arrive, il n'y a rien, on repart, il y a tout, mais ça n'a pas grand sens. Une ville doit obéir à autre chose qu'à un projet politique, elle doit obéir à un projet pas seulement idéologique, mais aussi géologique, géomorphologique, civilisationnel d'une certaine manière. Donc on voit bien à quoi ressemblent les maisons dans lesquelles nous habitons. Très peu de gens habitent des lieux et qu'ils ont vraiment choisis. Moi, quand je passe en voiture, par exemple, sur un périphérique, j'habite à Caen, en Normandie, par exemple, je me dis comment des gens font pour habiter dans un immeuble qui, lui, est posé sur le périphérique. C'est-à-dire que si ils accrochent des trucs à leur balcon, si ça tombe du balcon, ça s'en va sur le périphérique. Ils vivent là. Personne ne peut désirer ça, ne peut vouloir ça. C'est-à-dire que les gens habitent dans des cages à lapins parce que parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat.
Alors, ça me permet de faire une transition toute trouvée avec le confinement par rapport à l'habitat, et je n'ai pas le choix de mon habitat, enfin pour la majorité des gens. Qu'est-ce que finalement le confinement nous a révélé par rapport à ce rapport à l'habitat ?
D'abord, le confinement a révélé chacun à chacun. C'est le problème, c'est qu'on est en face de soi. En temps normal, quand il n'y a pas le confinement, on est en face de sa femme, de ses enfants, de son mari, de son compagnon, des gens avec qui on vit. On partage ça un peu avec son chien, son chat, son poisson rouge, et puis on s'en va, et puis on prend le métro, le train, la voiture, et on retrouve des collègues au boulot avec lesquels on travaille, on les aime, on les aime pas, sont des copains, des amants, des maîtresses, des gens qu'on déteste, et puis on déjeune ensemble, et puis etc. Il y a une vie qui est susceptible d'être altruiste, qui est susceptible d'être empathique, et on s'oublie un peu soi-même, puis éventuellement le soir on retrouve son compagnon, sa compagne, éventuellement la vacuité de sa vie, en se disant « Oh là là, j'ai aimé cette femme, mais je ne l'aime plus comme je l'ai aimé », et puis on a cette espèce de routine. Et là, du jour au lendemain, on vous dit « Maintenant, vous allez avoir un face-à-face avec vous-même. Donc vous allez rester chez vous. Chez vous, ce n'est pas un dortoir, ça va être le lieu de la totalité de votre vie. Ce n'est pas le lieu dans lequel vous dormez ou dans lequel vous êtes le dimanche, le week-end pour vous reposer, mais et que vous quittez quand vous partez en vacances parce que vous allez loin de cet endroit. C'est le lieu dans lequel vous allez vivre avec les gens que vous avez choisis. » Les compagnons, les compagnes, les enfants, et vous allez vivre dans X mètres carrés. Moi, je me suis posé la question, je disais tout à l'heure, 17 mètres carrés à la maison, comment aurait-on vécu ce Covid à 17 mètres carrés, 4 personnes? Vous dites, mais on fait quoi? On fait comment? On devient fou.
Ceux qui sont tout près du périph, à Caen,
ceux qui sont tout près du périph, etc. Alors, si vous avez un jardin, mais éventuellement, mais si vous avez une vue, c'est-à-dire si vous avez un balcon, vous êtes dehors, même si vous êtes encore un peu beaucoup chez vous, vous avez une chaise, une table, vous êtes là, vous avez vu sur ce que vous voyez, c'est-à-dire sur la ville, sur la campagne, alors ça peut être aussi mieux que ça, la montagne, la mer, ou ce que l'on voudra. Mais donc il y a eu effectivement une véritable inégalité, et les gens ont vu cette inégalité. Ça les a rendus un peu fous, hein. D'ailleurs il y a un moment donné où on va finir par faire le bilan psychiatrique du Covid, et chez certains qui étaient fragiles, les fêlures se sont écartées plus encore. Et de fait, la relation entre soi et soi dans un univers ultra confiné, qui peut être, je vous dis, 17 mètres carrés, mais parfois un peu plus, mais guère plus, c'est un truc à tomber fou. On est dans la logique cellulaire, la logique de la cellule de la prison.
Oui. C'est pour ça aussi que la majorité des gens ont fait évoluer leur habitat suite au confinement et que le marché de l'immobilier a tout d'un coup pris une autre ampleur suite à cette...
Et qu'on rêve de petites maisons à la campagne.
Absolument.
Alors effectivement, on a parlé en préambule, Eric a parlé des maisons de son enfant. Je voudrais reprendre une citation que vous avez eue en disant « Les villes sont des catastrophes pour les enfants ». J'aurais aimé avoir votre regard sur ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que d'avoir une enfance à la ville ou à la campagne change radicalement son rapport à l'écologie et au regard que l'on peut avoir sur le monde actuel?
Oui, à tout. Je pense qu'il y a vraiment des rats des villes et des rats des champs. Et que moi, j'ai eu la chance, en campagne, d'être en contact avec des choses qu'on n'oublie pas. Avec le cosmos, avec la nature, avec les saisons, avec les rythmes. L'alternance du jour et de la nuit, ça existe en campagne. En ville, quand il fait nuit, il fait encore jour, parce que vous avez la lumière artificielle et que vous regardez par la fenêtre, la nuit, il y a de l'éclairage artificiel. Dans la campagne, vous ouvrez la fenêtre, dehors, c'est le noir. Et les gens n'ont pas l'habitude du vrai noir profond. Ce vrai noir profond est un révélateur, pour le coup, au sens photographique du terme, du cosmos. Et dans le jardin de mon village, de mon village natal, là où j'ai cette maison, on a parfois l'impression qu'il suffit de tendre le bras pour décrocher des étoiles. Donc vous avez le sens de l'infiniment grand, Et vous avez aussi le sens de l'infiniment petit. C'est-à-dire, si vous avez la chance d'avoir des fleurs, des arbres, ben vous les voyez vivre. Mmh. C'est-à-dire, vous voyez la naissance d'un bourgeon, vous avez les petits poils du bourgeon, vous pouvez toucher, il y a cette douceur, puis d'un seul coup, vous avez un petit peu de vert qui apparaît parce que la feuille est là, puis la feuille va s'ouvrir, puis la fleur va arriver, puis le fruit va apparaître. Et puis le fruit va se taveler, il va disparaître, il va tomber si vous ne le ramassez pas, et puis les feuilles vont perdre. Il n'y aura plus de sève parce qu'effectivement, l'arbre comprend qu'il y a moins de lumière et qu'il est temps de faire des économies. Donc la sève descend dans les racines en attendant le retour de la lumière. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais c'est fini, c'est la mort. Puis en fait, la saison suivante, ça recommence. Donc vous comprenez qu'il y a un cycle. Mmh. Il y a le cycle du jour et de la nuit, il y a le cycle des saisons, et vous comprenez que, alors ça ne rend pas forcément déiste ou croyant, mais ça permet justement le cosmos, qui étymologiquement signifie l'ordre. Quoi. Vous avez le sens d'un ordre dans lequel vous prenez place. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous comprenez que vous êtes un fragment du cosmos, et un tout petit fragment, et qu'il y a une éternité avant vous, il y aura une éternité après vous, que vous venez du néant, que vous retournerez à ce même néant, mais qu'en même temps, ça a un sens parce que vous avez compris où vous étiez. Petit point dans l'univers, mais au moins vous savez ce qu'est l'univers. Dans la ville, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, si vous avez des arbres, la plupart du temps, ça sert aux chiens pour aller pisser ou faire leur crotte le soir. Vous avez la plupart du temps une grille qui entoure tout ça. Ils sont à moitié crevards parce que bah, il faudrait les entretenir, les tailler, les élaguer. Quand c'est fait par des employés municipaux, ils savent pas forcément tout. Ils cassent tout, ils détruisent tout. Ils font ça avec aujourd'hui un matériel terrible qui déchiquette les branches, donc qui tue l'arbre. Et puis si vous dites « Ah, il fait nuit, je vais regarder le cosmos », vous voyez quoi? Vous voyez l'éclairage public, une espèce de lumière jaunasse, là, qui est la lumière des villes. Et même quand il y a des grandes villes, la pollution va très loin, des kilomètres. C'est-à-dire que vous êtes en campagne, mais aux alentours de, je sais pas, de Lyon, de Marseille, eh bien vous ne voyez pas le cosmos. Donc vous ne voyez pas les effets de la nature, vous ne voyez pas les effets du jour et de la nuit, vous ne voyez pas les effets des cycles, vous ne comprenez pas ce qu'est le cosmos, comment pouvez-vous trouver un sens à ça? Donc les enfants... Moi, j'ai eu une enfance assez proustienne dans ce sens, parce que on allait dans la rivière, on allait pêcher des têtards, on allait des poissons, on allait voir des têtards dans les mares, on regardait comment les têtards évoluaient, on voyait des couleuvres, on apprenait à les distinguer des vipères, il y avait des couleurs différentes et multiples et incroyables, c'est-à-dire les ramages des fleurs, c'est impensable. Vous êtes éduqué, la nature vous éduque en ce sens. Si vous n'avez pas ça, alors vous êtes éduqué par le béton, par le bitume, éventuellement par la télévision, par les écrans, par ce que les livres éventuellement vous apprennent, mais vous avez un rapport au monde qui est totalement étranger.
D'accord. Et en tout cas, vous êtes un être humain différent si vous avez vécu à la campagne ou à la ville.
Oui, je le pense. Bon,
même si on sait que à la campagne, la journée on s'ennuie et la nuit on a peur, selon l'expression. je ne sais plus qui a dit ça d'ailleurs.
J'ai encore une dernière question, mais je la garde en conclusion.
Allez-y. Alors.
Mais vous en aviez une.
Ah oui, j'en ai plein parce que en fait, vous avez au moins, alors peut-être, un point commun tous les deux.
C'est pas la coupe des cheveux.
C'est... Non, ça va pas tarder. Mais... Non, c'est la place de l'art peut-être dans vos vies. Parce que Cédric Simenin, dans la société qu'il dirige, chaque fois qu'il construise un bâtiment, eh bien, il y a un artiste qui a travaillé et dans l'entrée, il y a son œuvre. Alors ça peut être un écrivain, ça peut être un sculpteur, ça peut être un peintre. Vous avez écrit un livre qui est sorti récemment sur l'histoire de l'art, de l'art rupestre à Jeff Koons. Donc la question, ça serait d'abord, quel est votre rapport, enfin, qu'est-ce que vous imaginez comme rapport entre l'art et l'habitat? Première question, allez-y.
D'abord, un architecte, pour moi, c'est un producteur de sculptures habitables. C'est-à-dire que comme Le Corbusier parle de machines à habiter, bon, on peut. Moi, j'aime Le Corbusier comme une chose à voir ou à regarder, pas forcément comme une chose à habiter. On n'a pas forcément envie de ça. C'est très beau. C'est beau pour les catalogues, c'est beau pour les revues. Mais est-ce que c'est beau et bon pour le corps? Il y a toute une architecture aujourd'hui contemporaine qui est aussi très, très cérébrale et très conceptuelle. Les échanges entre Jean Nouvel et Baudrillard sur la question de la transparence. Est-ce qu'on a vraiment envie de la transparence totale ou absolue? Ça va bien quand il s'agit d'un immeuble, quand il s'agit de, je sais pas, la Fondation Cartier, ce genre de choses. On se dit, allons-y pour la transparence. Mais c'est quoi la transparence quand on est en ville? C'est de vivre sous le regard d'autrui. Donc vous avez peut-être envie de sortir de votre salle de bain tout nu et puis d'aller prendre votre petit-déj aussi en étant encore à poil dans la salle. Et là, si vous dites « Ah ben non, tout le monde me voit », on n'est pas dans un pays protestant. Si vous avez ça à Amsterdam, Ça choque le catholique qu'on est de formation. Si vous passez à Amsterdam, il n'y a pas de rideaux, les fenêtres sont là, on voit les gens vivre.
Et pas que dans les vitres.
Et un jour, je vois ça. Moi, j'étais à Amsterdam et je dis, mais je vois un type à poil dans sa cuisine devant moi. Ce type, dans le genre, il est exhibitionniste. Mais je me suis dit, mais c'est peut-être toi qui es voyeur aussi. Parce qu'après tout, si tu ne le regardes pas, s'il ne te regarde pas, tout est possible, tout est pensable.
On va arriver au ready-made, attention là.
Oui. Non, mais là, on peut voir en même temps l'aspect intellectuel des architectes qui, la plupart du temps, pensent des maisons sans forcément imaginer que des gens les habitent. On a juste envie de dire, cessez d'être platonicien. Moi, j'aime assez les Gaudi, par exemple, ou quelques autres qui se sont dit, bon, la logique apollinienne, la verticalité, l'horizontalité, les volumes du nombre d'or et ce chose. Bon, d'accord, très bien, tout ça, ça existe. Mais il dit, mais il y a aussi la feuille, la fleur, il y a aussi l'arbre, la jungle, et on peut avoir des formes baroques pour le coup, hein, au sens étymologique, c'est-à-dire la perle qui n'est pas parfaitement ronde. Et j'aime bien assez cette architecture-là. Et je me dis, quelqu'un comme Fernand Léger, par exemple, a essayé de faire la liaison entre l'art et pas tant l'habitat. Ouais. Il a fait d'abord des études d'architecte, hein, au départ, ouais. Mais et la couleur. Et il a commencé à dire, mais attendez, si on peignait les bâtiments, vous avez un mauvais bâtiment, dès qu'il est peint avec les couleurs de Léger, surtout hein, le rouge, le bleu, le jaune de Fernand Léger, d'un seul coup, ce n'est plus le même bâtiment. Donc lui, il pensait en termes de colorisation des volumes. Il aurait dû penser en termes de volumes, pardon.
Des formes aussi, parfois. Dans l'architecture d'aujourd'hui, contemporaine, on retrouve parfois les formes que l'on peut retrouver chez Fernand Léger.
Oui, mais c'est souvent une architecture que je dirais platonicienne. Ce qui domine, c'est quand même ça. C'est une espèce d'architecture internationale. Vous allez à Sydney, vous allez à New York, vous allez à Brasilia, peut-être moins à Brasilia parce qu'il y a une espèce de respect de ce qui a été fait, qui est une ville terrible. Moi, j'ai visité Brasilia, les gens qui me pilotaient dans Brasilia, qui étaient nés à Brasilia, se perdaient dans Brasilia. C'est dire un peu l'absence de point de repère possible, le caractère éminemment intellectuel de cette ville, très belle à voir, mais pas facile à vivre, d'une certaine manière. Et moi, je pense que si les architectes cessaient d'être des pythagoriciens, des platoniciens, des idéalistes, des penseurs de la forme, des penseurs de la déconstruction, parce que la déconstruction, Jean Nouvel, etc., tout ça est très bien, mais alors à ce moment-là, on aurait peut-être une autre... Je ne parle pas d'école, parce que j'en suis pas là, mais pourquoi pas. Mais Rudy Ricciotti fait des choses très intéressantes, parce que lui, il est sur une logique un peu de... Je ne vais pas dire de compromis, hein, ce n'est pas un homme de compromis, mais formellement, il fait de l'apollinien et du dionysiaque en même temps. C'est-à-dire que c'est treillis, c'est treillage, ça reste quand même très dionysiaque, et en même temps, c'est intégré, ça se trouve intégré dans des formes qui restent très apollinienne. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Mais il y a Richard Guéry aussi. Moi, je trouve que c'est Franck Guéry. Non, Richard Guéry qui lui fait des choses extraordinaires parce qu'il y a de la feuille, il y a de la fleur, il y a de la flore.
Vous parliez des pyramides tout à l'heure. Mm-hmm. L'architecte des pyramides, c'est Imhotep. Ça signifie celui qui vient vers toi. Est-ce que quand on est dans le monde de l'habitat, on va vers les autres, on est obligé d'aller vers les autres? Un architecte aujourd'hui est-il obligé d'aller vers les autres?
Ça dépend ce qu'il fait. Vous savez, quand Malaparte dit « je veux une maison qui me ressemble », et vous connaissez cette fameuse maison là, que Godard utilise et superbement dans Le Mépris, ça veut dire quoi une maison qui me ressemble? La plupart du temps, vous rencontrez un architecte et vous lui dites « allez, fais-moi une maison qui me ressemble ». C'est intéressant comme exercice. Moi, j'aurais voulu être architecte quand j'étais en terminale, mais j'étais nul en maths. Et il fallait passer un bac E à l'époque, et pour avoir ce bac, il fallait savoir et dessiner, ce qui n'était pas mon cas, et compter, ce qui n'était pas mon cas. Donc je suis allé voir ailleurs. Mais je pense que d'ailleurs, j'ai perdu mon idée, on était parti sur quoi là,
on parlait du lien entre l'art et l'habitat.
Oui, mais la dernière...
Et je ne sais plus...
Est-ce que l'architecte doit aller... C'est toi, architecte d'aller au-devant?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Personne dessus, en fait.
Il est difficile à suivre, quand même.
Et l'architecte, si vous lui dites, bon, moi, je vous passe commande, j'ai l'argent, je vous passe commande d'une maison qui me ressemble, vous obtiendrez quelque chose qui devrait être, normalement, extravagant, au sens étymologique du terme. Mais si vous êtes smicard et que vous dites, faites-moi une maison qui me ressemble, l'architecte, il va vous dire, vous me donnez combien? Vous dites, non, j'ai pas un très gros budget. Il vous dit, il n'y a pas de problème, j'ai des maisons en quantité. Vous allez avoir celle-ci.
Vous aurez la même chose que tout le monde.
Voilà. Et des trucs sidérants, moi je vois ça parfois, j'ai l'âge qui me permet d'avoir connu des champs qui sont devenus aujourd'hui des villes et des périphéries. Et je regardais encore l'autre jour à l'entrée d'une ville et je me disais, mais comment un architecte peut-il dessiner des choses pareilles, des choses, à mon avis, ce type n'habite pas les maisons qu'il dessine.
Souvent, ils ont moins le choix, les architectes aujourd'hui dans les villes. C'est un peu
l'architecte, le geste architectural.
Je finis juste là-dessus parce que je reviens à votre livre et à Jeff Koons. Vous dites que pour bien comprendre Jeff Koons, il faut connaître son engagement LGBT. La question par rapport à l'habitat.
Non, pas tout Jeff Koons, mais le bouquet de tulipes.
En tout cas, oui, les tulipes. Est-ce que pour bien comprendre l'habitat, il faut connaître l'habitat, en fait, tout simplement? Est-ce qu'on peut parler d'habitat si on ne connaît rien à l'habitat?
Le problème avec aujourd'hui, c'est qu'on n'enseigne plus rien nulle part. Et qu'à l'école, jadis, on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser. On apprenait l'histoire de l'art, on apprenait ce qui distinguait les classiques, des romantiques, du baroque, etc. Je ne vais pas dire qu'on enseignait beaucoup l'architecture, hein, et on enseignait l'architecture dans les écoles d'architectes, mais on n'a jamais appris à regarder un bâtiment en disant « regarde ce qui se passe là, et quelle différence fais-tu entre... un bâtiment classique, un bâtiment baroque et puis un bâtiment du XXe siècle. Peut-être des instituteurs ou des professeurs le font-ils, mais j'ai une espèce de défaut d'éducation aujourd'hui qui fait que tout le monde a un avis sur tout, en n'ayant jamais travaillé. C'est-à-dire que vous dites, vous avez des gens qui sont des spécialistes de l'avis sur tout, là, sur BFM, CNews, etc. Ils ont 10 questions par jour, le lendemain 10 questions nouvelles, le surlendemain 10 questions nouvelles. Alors, c'est sur tous les sujets, mais ils ont tous un avis. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens, on se dit, ils n'ont pas travaillé sur toutes ces questions-là. Ne
donnez pas de nom.
Et arrive le moment où on dit, alors, Christo, vous en pensez quoi de l'emballage de Christo? Ils sont en train de vous faire des trucs, la plupart du temps, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, si c'est ça l'art contemporain, c'est subventionné, etc. On se dit, mais qu'avez-vous lu sur l'art contemporain? Combien de temps avez-vous consacré à l'art contemporain? Et savez-vous qui est Christo, ce que sont ses projets? Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom de 5 acteurs de l'art contemporain vivants, là, tout de suite? C'est quoi Duchamp? À quoi ça ressemble? Enfin, qu'on puisse s'entendre, quoi. Mais pas du tout. Les gens n'ont pas cette culture, mais ils ne s'interdisent pas le jugement. Alors, avec les raisons de l'art, j'ai voulu faire ça. J'ai voulu dire, mais... J'étais prof 20 ans dans un lycée technique. Alors, vous savez, les élèves de lycée technique, c'était moi, les jeunes filles que j'avais en cours, elles étaient secrétaires, enfin, du moins, pour certaines sections, secrétaires, comptables ou vendeurs de voitures. Ça, c'était plutôt les garçons. Et la philo, c'était pas pour eux, vraiment. Et quand on arrivait.
L'art non plus, du coup.
Vraiment. Non, non. Et il y avait en philo un cours qui s'appelait l'art. Et je disais, et je l'ai beaucoup dit ces temps-ci, mais je disais à mes élèves, mais si un Chinois rentre dans la salle et se met à vous parler chinois, n'allez pas dire ça ne veut rien dire. Vous allez dire je ne comprends pas. Ouais. C'est pas la même chose. Si vous apprenez le chinois, vous allez comprendre le chinois, puis vous risquez même un jour de le parler si vous l'apprenez bien. Eh bien, dites de l'art contemporain, non pas que ça ne veut rien dire, mais que vous ne le comprenez pas, apprenez-le et vous pourrez le juger. Et vous apprendrez l'art contemporain quand vous aurez aussi appris le reste de l'art. Parce que quand vous faites voir un portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, mes élèves croyaient le comprendre et je leur disais, vous ne le comprenez pas parce qu'il y a 50 symboles. Vous allez voir, si je vous donne les symboles et que je vous explique, vous allez mieux comprendre, mieux aimer la peinture. Dans un monde où il n'y a plus d'initiation, il n'y a plus de compétences, il n'y a plus de possibilité même de jugement, et dans un monde où il y a une ubérisation du jugement, je m'autorise de moi-même, si je veux, quand je veux, on a affaire effectivement à des œuvres, à la production d'œuvres qui sont un peu...
Je suis en train de faire comme tous les médias, je suis obligé de vous couper,
parce que le
temps tourne, et Cédric a encore des questions.
Oui,
bien sûr, mais encore une ou deux, je renvoie juste à votre livre, Les raisons
de l'art.
De l'art, exactement, voilà, qui est sorti il y a quelques jours.
Alors, vous avez parlé d'un logement qui me ressemble. Dernière question, pour vous, selon vous, pour vous, quel serait votre logement idéal?
Alors, j'ai le pouvoir d'achat qui me permet maintenant d'avoir des maisons. Et je suis toujours dans une logique de petit garçon, de fils de pauvre qui s'interdit presque ça. Et je me dis, j'ai une maison dans mon village natal, j'ai un appartement... à Caen où je vis, et puis récemment, je suis en train d'acheter une maison dans le sud parce que j'ai envie de lumière et de soleil. J'ai eu une maison en Martinique que je vends pour pouvoir acheter celle-ci. Mais j'ai eu l'autre jour un dégât des eaux dans mon appartement à Caen. Et le dégât des eaux a entraîné la disparition d'une de mes bibliothèques, bouquins trempés complètement, etc. À un moment donné, il faut faire venir l'expert qui regarde tout ça, qui voit bien que c'est pas moi qui ai arrosé ma bibliothèque et qui dit « bon d'accord, l'assurance est d'accord, on refait votre pièce, etc. » Et je dis « je suis parti 8 jours, vous pouvez refaire ma pièce, je suis pas là. » Donc ils ont vidé toute ma chambre pour le coup. Et quand je suis arrivé, je me suis dit « ils auront enlevé, refait, etc. » Et quand je suis arrivé, il y a mon voisin que j'aime beaucoup qui me dit « oh là là, tu vas pas dormir dans ton lit ce soir, ils sont toujours en train de bosser, etc. » J'arrive dans mon appartement et de fait, c'était encore en travaux pour la chambre, il n'y avait pas grand-chose de fait. Et là, j'ai dit, ah non, non, mais moi, je dors chez moi ce soir, excusez-moi, je ne sais pas. Donc, j'ai pris un... Donc, il y avait les quatre murs, repeints en blanc, mais pas totalement finis. Et j'ai amené une espèce de plastique pour éviter de salir mon matelas. J'ai posé le matelas sur le truc en plastique. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que j'ai un éclairage, je voudrais pouvoir lire un peu avant de m'endormir. Donc, j'ai posé... je me suis dit, une toute petite table, une chaise... Un éclairage pour pouvoir éclairer ma table, puis m'éclairer quand j'étais dans le lit. Il n'y avait que ça dans la pièce. Et je me suis dit, mais c'est ça mon idéal. J'ai pas envie d'autre chose, je veux ça. Et pourquoi est-ce que je cours après des maisons, des pièces, des œuvres d'art? Pourquoi est-ce que j'achète un peu d'art africain ou des choses comme ça? Alors que le bonheur est ici, quatre pièces, blanc.
Un bout de plastique et paf.
Un truc en plastique, justement pour éviter de servir le truc. J'aurais même pu, comme Diogène, enlever le plastique en disant même ça n'est pas nécessaire. Le matelas, une table, une chaise, un éclairage. Et je me suis dit, mais je suis ici le plus heureux des hommes.
Comme dirait votre ami.
Pardon?
Le retour du temps de la lampe à huile.
Oui, c'était presque ça, parce qu'après on aurait même pu dire, même pas besoin de ceci ou de cela, enfin l'éclairage après tout, tu vas lire quand il y aura de la lumière, puis quand il n'y aura plus de lumière, tu vas te coucher. Enfin, l'idéal c'est vraiment les purs. Okay. L'apostrophe est pure.
En tout cas, on a été ravis de vous recevoir,
vous êtes
Michel
gentil, Onfray.
Vous revenez quand vous voulez. Je sais que vous êtes souvent à Strasbourg pour les bibliothèques idéales, notamment, et plein d'autres raisons qui vous amènent ici. On a été ravis, on a fait le tour de la question.
Et on a passé un très bon moment.
On aurait pu faire le double, je pense, sans problème.
Le triple, le quadruple.
Cette émission, on la retrouve sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur Facebook, sur les plateformes de podcast et sur topmusic.fr. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.